Alors, selon les études, 1 à 5% de la population ressentirait des attirances ou des fantasmes sexuels concernant les enfants. Il y a des adultes, hommes, femmes, il y a également des jeunes. Est-ce que ça commence le plus souvent par la consommation d'images pornographiques ?
Alors, si votre question, c'est de savoir si ce 1 à 5% de, je précise, des hommes adultes ressentant des fantasmes sexuels à l'égard d'enfants, je dirais que non, on ne peut pas tout à fait affirmer cela. Il n'y a pas encore de consensus sur l'origine des pensées pédophiles. Il y en a qui cherchent du côté des gènes, il y en a qui cherchent du côté de la neurobiologie, des vécus de maltraitance pendant l'enfance, des vécus de négligence. Il y a probablement un petit peu de tout ça, et puis encore d'autres éléments dans des proportions très difficiles à évaluer. Maintenant, si votre question c'est est-ce que les personnes qui consomment de la pédopornographie doivent cette consommation à une consommation d'abord de pornographie, là aussi c'est pas si simple. Disons, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, hein, des personnes qui nous disent « Mais moi, je ne suis pas du tout pédophile, j'ai commencé par une dépendance au porno, et puis petit à petit, je suis tombée sur d'autres images et je suis restée accrochée. » Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Nous, ce qu'on essaye dans ces cas d'amener comme réflexion, c'est « Ok, on sait qu'on peut avoir des phénomènes de dépendance au porno, qu'on peut aller chercher des choses de plus en plus hardes, parce que sinon, on ne retrouve plus la même excitation qu'au début. Mais si... quand je tombe sur des images d'abus sexuels d'enfants, je reste accrochée plutôt que de signaler ça à la police, fondamentalement, c'est qu'il y a probablement autre chose. Et ce autre chose, ça vaut la peine de le creuser avec un spécialiste et de mieux comprendre.
Parce que la consommation d'images n'entraîne pas forcément un passage à l'acte, mais la consommation d'images est déjà problématique.
Alors, je préciserai que la consommation d'images d'abus sexuels d'enfants est déjà un passage à l'acte. Hein. C'est déjà un acte illicite et réprimé par la loi. Si on parle de passage à l'acte d'ordre sexuel sur un enfant, entre guillemets, offline, effectivement, la consommation ne signifie pas que la personne va abuser d'un enfant dans la rue. Par exemple, il n'y a pas non plus de consensus aujourd'hui sur les effets de cette consommation de pédopornographie. Pour certains, ça peut être un exutoire, c'est-à-dire je me permets de vivre ces fantasmes dans le, entre guillemets, le virtuel, et ça fait une prévention d'un passage à l'acte offline. Pour d'autres, c'est plutôt un catalyseur, un accélérateur qui va banaliser l'abus et qui va m'amener plus rapidement à un abus sexuel. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Nous, ce qu'on essaye de rappeler toujours à nos appelants qui consomment, ils ne consomment pas tous, hein, je précise, c'est que quoi qu'il en soit, derrière ces images, il y a des réels abus sexuels sur des enfants, donc il y a un réel marché. Et en consommant, on augmente la demande de ce marché, donc on augmente les abus sexuels, peut-être dans d'autres pays. Mais c'est important donc d'arrêter cette consommation.
Votre association, elle peut recevoir des appels jusqu'à 40 par année. Ça signifie que les personnes qui vous appellent ont des réelles attirances ou des fantasmes ?
Alors, on a des appelants qui nous disent tout de suite, voilà, moi j'ai des fantasmes, parfois ils disent des fantasmes pédophiles que j'ai pas choisi, j'en souffre. Il y a d'autres personnes qui nous disent au contraire, moi j'ai justement pas d'attirance pédophile, mais j'ai un problème de consommation d'images illicites sur Internet. Parfois les deux choses se croisent. Parfois il y a des personnes qui disent ne pas forcément avoir une attirance pour les enfants, mais qui ont peur de reproduire par exemple des abus qu'elles ont vécu pendant l'enfance. Puis encore d'autres personnes qui viennent avec des questions sur qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, je me reconnais plus. Et puis, il y a encore d'autres personnes qui viennent parce qu'elles connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a ce genre de problème. Et ça, c'est aussi un canal important pour nous. Typiquement, ça peut être la partenaire qui découvre des images sur le portable du mari ou de son fils. Et ça, c'est aussi une population qui peut nous appeler.
Alors justement, il y a un numéro de téléphone, on le mettra sur la page de format à 3, 0840 740 640. Lorsque vous recevez un appel, c'est très important, vous êtes en première ligne. Est-ce qu'il y a une formation spécifique qui fait que vous allez pouvoir recevoir l'appel, discuter avec la personne et la rediriger en cas spécifique?
Ah, alors, c'est difficile de répondre à votre question dans le sens que on est le premier service roman qui fait ce genre de travail. Donc, je peux vous dire quelle est ma formation. J'ai une formation assez éclectique, d'abord en lettres, puis un master en droit de l'enfant, une formation en médiation, mais surtout beaucoup, beaucoup de formations continues dans l'écoute, dans la traumatologie, en criminologie, et beaucoup d'échanges et de supervision avec des spécialistes qui prennent en charge cliniquement cette population. Après, je dirais que au-delà des titres, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir développer une écoute qui soit à la fois non-jugeante, accueillante, pour pouvoir entendre des choses qui sont pas évidentes à entendre, et trouver un bon équilibre avec la non-banalisation de certains actes, notamment la consommation, pouvoir rappeler à la personne certaines choses tout en restant à l'écoute de manière bienveillante.